conférence Actes Sud.
Adad,
H-A-2-D-A-D. Parce qu'il y en a pas mal d'Adad. Le souffle de l'esprit, Actes Sud. Et je peux vous dire que toutes dedans sont d'une force. Et à relire, à chaque fois qu'on les relit, ça apporte encore autre chose. Là où on est, au moment où on est. Alors ce soir, là où l'on est, je crois que on va être heureux de vous entendre.
Merci de votre invitation. C'est un vrai plaisir, un honneur d'être parmi vous ce soir, de rencontrer un groupe à la fois œcuménique et interreligieux, ces deux dimensions. C'est un bonheur d'être parmi vous. Ce que je vais faire ce soir, c'est vous présenter le premier ouvrage d'un des plus grands penseurs chrétiens encore en vie, Jürgen Moltmann. Jürgen Moltmann. Et donc, je suis au service de sa pensée ce soir, en essayant de vous présenter cette pensée. La feuille que je vous ai distribuée contient simplement des citations de cet ouvrage, que je vais un peu commenter, et puis nous pourrons discuter après de ce que nous aurons lu et entendu. Mais d'abord quelques mots sur la personne de Jürgen Moltmann, qui est un théologien réformé, donc de la branche calvinienne, plutôt que luthérienne, né en 1926. Il aura 87 ans dans un mois environ. Fils d'enseignant cultivé, son père et son grand-père avaient étudié à l'université de Heidelberg. Il a été obligé de participer aux jeunesses hitlériennes. Sa famille allait à l'église une fois par an. Pas une famille très pratiquante. À Noël, pour la veillée de Noël. Non pas pour fêter la naissance du Sauveur, mais pour rendre hommage à la Sainte Famille, ce qui fait un peu plus catholique d'ailleurs que protestant. Il a fait sa confirmation en 1940, et donc en février 43, sa classe au lycée a été enrôlée dans l'armée, dans la Wehrmacht. Ils sont devenus auxiliaires de l'armée de l'air. Ils n'avaient pas encore 17 ans. Il a subi l'opération Gomorre, qui a débuté le 24 juillet 1943 sur Hambourg, visant à détruire une première ville allemande, 1000 bombardiers pendant 9 nuits, 40 000 morts, surtout des femmes et des enfants, bien sûr, les hommes étant sur les fronts. La dernière nuit de cette série de bombardements, son camarade Gerhard Schopper fut tué juste à côté de lui. Et cette nuit-là, Jürgen Moltmann a crié à Dieu pour la première fois de sa vie et lui a remis sa vie. C'était comme s'il était mort et comme si, à partir de ce jour-là, il recevait sa vie chaque jour comme un don. C'est comme ça qu'il l'exprime, qu'il l'écrit dans son autobiographie. Sa question n'était pas « Pourquoi Dieu permets-tu ce genre de choses ?» Sa question était « Où es-tu, mon Dieu ?» Comme beaucoup qui ont survécu, il a eu un sentiment de culpabilité, d'avoir réchappé à tous ces bombardements et à la guerre. Cette nuit-là, il écrit « Je suis devenu quelqu'un qui cherche Dieu ». Une quête qui continue jusqu'à aujourd'hui. Il a terminé son lycée en 1943. Il a suivi quelques cours à l'université de Hambourg, où il vivait, chimie, physique. Il a été envoyé travailler en Lituanie. Son père était à Minsk, en route vers la Lituanie pour rendre visite à son fils, quand son père a appris le génocide des Juifs. Jürgen Moltmann, comme jeune soldat, a été formé au tir, bien entendu, mais il n'a pas tiré une seule fois pendant la guerre. Et il a vécu, bien sûr, la mort de plusieurs camarades. Un autre de ses amis est mort dans ses bras, tué par une grenade. Il a été fait prisonnier de guerre en février 1945, 19 ans. Camp de prisonniers en Belgique, à Ostende, puis en Écosse. C'est en Écosse, dans ce camp de prisonniers, qu'il a vu pour la première fois des photos des camps de la mort. Et il n'en est pas revenu de voir ces photos. C'est dans ce camp écossais qu'il a découvert les psaumes de détresse, comme le psaume 39. C'est aussi là-bas qu'il a lu pour la première fois la Passion dans l'évangile de Marc. Il écrit ceci dans sa autobiographie: « Jésus me chercha et me trouva, j'en suis certain. » Tout cela dans ce camp de prisonniers écossais. Il termine un baccalauréat supplémentaire en Angleterre à la fin de l'année 46 et il décide de devenir non pas enseignant comme son père et son grand-père, mais pasteur. Ce qui revient pour lui à être le mouton noir de sa famille étant une famille éclairée, une famille moderne, donc qui vit dans l'esprit des Lumières. Il passe du temps aussi dans un camp en Angleterre, le Norton Camp, où il étudie la théologie. Des cours sont donnés aux prisonniers allemands par des grandes figures de la théologie du XXe siècle et du christianisme au XXe siècle, Anders Nygren, grand théologien luthérien, auteur d'une étude magistrale sur Eros et Agapé, très lu en ces années et encore au-delà. Des visites de Martin Niemöller, grand pacifiste allemand, qui aura passé la guerre et même un peu plus que la guerre dans le camp de Dachau, pour sa résistance au nazisme, à l'infiltration de l'idéologie nazie au sein de l'église protestante allemande. Visser Tuft, grande figure de l'œcuménisme, cofondateur du conseil œcuménique, se rend au Norton Camp et Jürgen Moltmann, jeune prisonnier, entend tous ces gens qui ont des choses très intéressantes à dire. John Mott, enfin, une autre grande figure de l'œcuménisme au XXe siècle, qui avait été responsable de l'Assemblée œcuménique de Édimbourg en 1910, qui a été un moment très important pour l'histoire de l'œcuménisme chrétien au XXe siècle. Donc il entend tous ces gens dans ce camp de prisonniers. Il entend aussi ses premiers sermons comme jeune adulte, et il écrit dans son autobiographie qu'il pourrait encore aujourd'hui donner un résumé de ses sermons, tant ses sermons ont été marquants pour lui. Et il écrit ceci: « Je n'ai jamais vécu une vie aussi intense sur le plan intellectuel que dans le camp Norton. » Ce qui est assez extraordinaire pour un homme qui a passé sa vie dans un milieu académique, universitaire, au contact des plus grands penseurs philosophiques, théologiques de son temps. C'est dans ce camp prisonnier qu'il a vécu la vie, une vie aussi intense que possible sur le plan intellectuel. En avril 48, il est libéré, après 5 ans de vie dans des baraquements, des camps, des bunkers, etc. Et il écrit ceci dans sa biographie: « Cette période est si importante pour moi que je n'y changerai aucune de ces journées. » C'est une affirmation que je trouve frappante, vu qu'il y a vécu des choses atroces. Mais voilà, « Cette période est si importante pour moi que je ne regrette aucune de ces journées. » Là, je vous traduis de la version anglaise de l'autobiographie, elle est parue en allemand d'abord, Weiter Raum, eine Lebensgeschichte, et ça a été traduit en anglais, A Broad Place, an Autobiography, paru en allemand en 2006 et en français en 2007. Ensuite, il a étudié la théologie, mais plus comme prisonnier de guerre, mais comme étudiant en théologie à Göttingen, avec des grandes figures de la théologie protestante au XXe siècle. Je vous donne quelques noms, ça ne vous dira peut-être pas grand-chose, mais Gerhard von Rad, un des grands spécialistes de l'Ancien Testament, Hans Joachim Iwand, un grand spécialiste de la pensée de Luther et de la théologie de la croix de Luther, Ernst Wolf, Günther Bornkamm, qui est un grand spécialiste du Nouveau Testament, biographie de Jésus, grand spécialiste de Paul, Joachim Jeremias, grand spécialiste des paraboles. Bref, il étudie parmi, avec les meilleurs, chercheur, enseignant de son temps. Ensuite, il devient pasteur dans la région de Brême. Il écrit une thèse sur Moïse Aniro, le théologien réformé de l'école de Saumur du XVIIe. Et puis, au contact d'un théologien hollandais, il se rend compte qu'il y a encore des choses à dire après Barthes. Parce que c'est ça un peu le problème d'un jeune théologien qui étudie dans les années, à la fin des années 40 et au début des années 50, que peut-on encore dire après Karl Barth et sa somme magistrale Kirchliche Dogmatik, seine Dogmatik. C'est un théologien hollandais qui lui fait réaliser que Barthes n'avait pas encore tout dit ce qu'il fallait dire, qu'il n'avait pas forcément très bien dit ce que la théologie doit dire aujourd'hui. Et c'est ce théologien hollandais, Arnold von Ruler, qui oriente Moltmann dans la direction de l'espérance eschatologique, l'espérance de la fin, l'eschaton. On va beaucoup utiliser ce mot ce soir, la fin, l'eschaton, qui donne donc ce terme scientifique un peu barbare d'eschatologie, un discours sur la fin, fin des temps, fin du monde, à préciser. Il devient professeur dans le sud de l'Allemagne, puis à Bonn en 1963, et puis à Tübingen. Et c'est là qu'il va exercer son activité de professeur de théologie systématique, à Tübingen, de 1967 jusqu'à sa retraite en 1995. 28 ans d'enseignement à Tübingen, après 4 années d'enseignement à Bonn, après 2 ans à Wuppertal, ça fait 34 ans d'enseignement de la théologie. Sa théologie de l'espérance, c'est son premier ouvrage majeur. Il a eu une thèse avant, il y avait des travaux ici ou là. Son premier ouvrage majeur, c'est sa théologie de l'espérance. Un manuscrit qu'il termine en 1964, un livre qui va connaître 6 éditions en 2 ans, c'est-à-dire qu'il se vend très très bien, qu'il est très très lu, très discuté. Traduction en anglais en 67, 3 ans plus tard, puis en hollandais, italien, français, japonais et d'autres langues plus tard. Le magazine Newsweek, le 11 décembre 67, s'ouvre avec un article intitulé « The Theology of Hope », la théologie de l'espérance, avec, bien sûr, Moltmann au cœur de cet article. Le New York Times, le LA Times, donc le Los Angeles Times, parle aussi de l'ouvrage. Der Spiegel, en Allemagne, en janvier 68, publie un article avec la photo de Moltmann. Même chose dans Time Magazine, le 26 décembre 69. Bref, un écho extraordinaire, hors du commun, pour un ouvrage théologique pointu. Il n'y a personne d'autre dans le monde de la théologie protestante qui a eu un tel écho international. Que dit-il dans cette théologie de l'espérance ? Entrons petit à petit dans le vif du sujet. Là encore, dans son autobiographie, je vous traduis ce petit résumé qu'il donne de son ouvrage, pour tout de suite avoir une idée un peu de ce qu'il a voulu faire dans cet ouvrage. Il écrit ceci. Je crois qu'il y a 3 concepts essentiels pour toute théologie chrétienne de l'espérance. Premièrement, le concept de promesse divine. Deuxièmement, le concept du relèvement du Christ crucifié comme promesse de Dieu pour le monde. Troisièmement, une lecture de l'histoire humaine comme mission du royaume de Dieu. Voilà comment Moltmann résume son propos, son projet, sa compréhension de l'espérance dans une perspective chrétienne. Tout d'abord, le concept de promesse divine, ensuite le concept de relèvement du Christ crucifié comme promesse de Dieu pour le monde, et enfin une lecture de l'histoire humaine comme mission du royaume de Dieu. Quatre ans après la publication de l'ouvrage, en avril 68, Moltmann est à Duke University, en Caroline du Nord, pour un colloque sur la théologie de l'espérance. Il est entouré de 500 théologiens. C'est assez effarant, le chiffre, ça fait du monde. Et au début d'avril 68, se passe une tragédie pour les États-Unis, mais pas seulement pour les États-Unis. Martin Luther King Jr. est assassiné. Cet assassinat a lieu pendant ce colloque. C'est à ce moment-là, écrit Moltmann, que j'en suis venu à penser que mon prochain ouvrage devrait porter sur la théologie de la croix. Et donc, voilà, les germes de son deuxième ouvrage, qui est un autre ouvrage majeur de Moltmann, après la théologie de l'espérance, Der gekreuzigte Gott. Le Dieu crucifié. La réception de l'ouvrage de Moltmann sur l'espérance est immense, donc vous l'avez compris, et les plus grands penseurs contemporains font bon accueil à cet ouvrage. Paul Ricoeur loue Moltmann pour son ouvrage, et un grand nombre de théologiens, théologiennes prennent position favorablement, mais aussi de manière critique. Il y a un deuxième volume qui va paraître sur la théologie de l'espérance, consacré au débat qu'a suscité l'ouvrage. Et là encore, il y a des traductions. Il y a une traduction en français d'un ouvrage assez épais de débat au sujet de l'ouvrage de Moltmann. Karl Barth est encore en vie à ce moment-là. Il meurt en décembre 68. Et évidemment, ça compte ce que quelqu'un comme Karl Barth a à dire sur un ouvrage comme cela. On peut imaginer Moltmann tremblant un petit peu en sachant que Barth était en train de lire l'ouvrage. Il le lit, Karl Barth, avec son ami Edward Thunheisen, et le 8 novembre 64, il écrit à un vieil ami qu'il trouve le livre, je cite, « très stimulant et excitant, car le jeune auteur s'efforce avec vigueur à mieux mettre en évidence la dimension eschatologique de l'Évangile que le vieil homme de Bâle, c'est-à-dire Barth, ne l'avait fait dans son commentaire sur l'Épître aux Romains et dans sa dogmatique. Je l'ai lu avec un esprit entièrement ouvert, mais j'hésite à le suivre, car cette nouvelle systématisation, même si on doit lui reconnaître de grands mérites, est presque trop bonne pour être vraie. » Donc Barth est relativement enthousiaste, mais c'est presque trop beau pour être vrai, cette théologie de l'espérance. Il écrit une lettre directement adressée à Moltmann, plus critique, peut-être pour qu'il ne prenne pas la grosse tête. Il lui écrit ceci: « Votre théologie de l'espérance est-elle autre chose qu'une manière de baptiser le principe espérance de M. Bloch ?» Parce que, en effet, dans cet ouvrage de 1964, Jürgen Moltmann est en conversation implicite, mais pas seulement, avec Ernst Bloch, le grand philosophe marxiste, auteur dans les années 50, après des décennies de réflexion sur le sujet de l'utopie concrète, etc., auteur d'un ouvrage majeur, le principe espérance. Donc Moltmann est en conversation avec cette pensée de Ernst Bloch. Que fait Moltmann dans cet ouvrage? Je vous ai déjà donné un petit aperçu avec ce résumé de ces trois concepts, hein, donc la promesse, la résurrection, et puis la mission dans le monde du royaume. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre l'eschatologie, donc une pensée sur la fin, comme point de départ de la réflexion théologique tout entière, plutôt que le terme de la réflexion théologique. Souvent dans les manuels de théologie, dans les dogmatiques, dans les efforts d'élaboration théologique, on parle de la fin à la fin, quand on y arrive. Karl Barth n'y arrivera jamais. Il n'écrira jamais son cinquième volume de sa dogmatique, et ça ne lui posait pas trop de problèmes. Moltmann veut renverser les choses et tout penser à partir de la fin. Voilà un peu le renversement qu'il opère et qui va avoir un impact énorme sur la théologie protestante, mais aussi sur la théologie chrétienne, car tout le monde lit cet ouvrage de Moltmann, au-delà des frontières confessionnelles. Le point de départ pour Moltmann, c'est la promesse de Dieu qui est fidèle. Et donc un attribut divin central pour lui, c'est la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle dans ses promesses, plutôt que Dieu est absolu ou infini, etc., qui sont plus des concepts philosophiques. Moltmann veut enraciner sa réflexion dans une perspective biblique. Et donc, ce qui compte pour lui, quand il pense Dieu, c'est la fidélité de Dieu plutôt que l'absoluité de Dieu, l'infinité de Dieu. Il le dit lui-même, il ne peut pas partir de l'idée générale de Dieu, de la métaphysique grecque. Il ne veut pas partir de l'universel, mais du particulier, de l'événement concret. Point de départ dans l'événement concret, dans le particulier, plutôt que dans l'universel. Pour la foi chrétienne, cela signifie partir du témoignage biblique des deux testaments, en corrélant toujours les deux testaments, en lisant le second à partir du premier, mais aussi le premier à partir du second. L'accès de Jésus à tous les hommes présuppose nécessairement l'Ancien Testament avec la loi et la promesse, écrit-il dans son ouvrage. Donc la voie de la connaissance théologique, il l'écrit quelque part, va irréversiblement du particulier au général, de l'historique à l'universel eschatologique. Et cette citation, qui ne se trouve pas encore sur le document que je vous ai distribué, mais on y arrive bientôt. Qui est ce Jésus? Qui il est? Ce n'est pas le monde en totalité qui le dit, mais l'histoire de la promesse en Israël. Ses propriétés ne sauraient être énoncées par négation de la sphère du terrestre, de l'humain, du mortel et du périssable. Elles ne peuvent l'être que par la commémoration et le récit de l'histoire de sa promesse. Voilà comment on a accès à Jésus. Qui est ce Jésus? On commence à le percevoir à partir d'une commémoration et par le récit, la narration de l'histoire de sa promesse. Prendre au sérieux, poursuit-il, théologiquement parlant, le fait reconnu que Jésus était juif, cela veut dire ne pas le considérer comme un cas particulier de la condition humaine en général, mais le comprendre en liaison et en conflit avec l'histoire vétérotestamentaire de la promesse. Voilà cet enracinement biblique, vétérotestamentaire aussi, de cette pensée sur l'espérance. Venons-en à cette première, à la liste de citations, et lisons la première. L'eschatologie chrétienne ne parle pas de l'avenir en général. Partant d'une réalité historique déterminée, elle en annonce l'avenir, la possibilité d'avenir, la puissance d'avenir. L'eschatologie chrétienne parle de Jésus-Christ et de son avenir. Elle connaît la réalité de la résurrection de Jésus et proclame l'avenir du ressuscité. C'est pourquoi, pour elle, le fait de fonder toutes les affirmations relatives à l'avenir sur la personne et l'histoire de Jésus-Christ est la pierre de touche distinguant les esprits eschatologiques des esprits utopiques. Cette phrase est tirée de l'introduction à l'ouvrage qu'il intitule « Méditation sur l'espérance ». Ici, Moltmann est disciple de Karl Barth. On le voit parce qu'il concentre son attention sur la figure de Jésus, confessée par les chrétiens comme le Christ. Mais comprendre Jésus est impossible si on ne le situe pas dans l'histoire de l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël. Moltmann concentre son attention sur Jésus, mais plus précisément, vous le voyez déjà, sur la résurrection du crucifié. Voilà le fondement de l'espérance chrétienne, selon Moltmann. Car l'ouvrage, il faut quand même lire le titre et le sous-titre de cet ouvrage, paru en 1964, Théologie de l'espérance, étude au pluriel, sur les fondements et les conséquences d'une eschatologie chrétienne. Moltmann veut montrer ce qui fonde l'espérance des chrétiens et chrétiennes, mais aussi les conséquences, les implications de cette espérance pour les chrétiens. Donc, le fondement de l'espérance chrétienne pour Moltmann, il est à percevoir, à situer dans cet événement de la résurrection de Jésus, à comprendre à partir de la promesse de Dieu vis-à-vis de son peuple. Passons à la deuxième citation. Par la résurrection du crucifié, une brèche est faite dans les limites où se brisent toutes les espérances humaines. Et c'est là que la foi peut et doit s'élargir en espérance. La résurrection donc ouvre une brèche, une ouverture apparaît qui est source d'espérance. Mais de quel type d'espérance parle-t-on ? D'une espérance d'une vie après la mort, Se concentrer sur la résurrection pourrait aisément donner lieu à des réflexions et une attitude de vie qui se détourne de la réalité du monde. Voilà une des erreurs qui ont été commises dans l'histoire de la théologie chrétienne et du christianisme. Et Moltmann va sans cesse répéter qu'il faut à tout prix éviter cela. Une espérance qui conduirait à une fuite. Troisième citation. La foi discerne dans la résurrection du Christ non pas l'éternité du ciel, mais l'avenir de la terre même sur laquelle se dresse sa croix. On est toujours dans cette méditation sur l'espérance qui ouvre le volume. Boltzmann appelle de ses voeux une théologie de l'espérance qui nous renvoie vers notre réalité, vers la réalité immanente, mais qui nous y renvoie autrement, changé, porteur d'espérance pour ce monde. Quatrième citation. Il se pourrait cependant que tout ce qui précède, nous sommes à la fin de cette méditation sur l'espérance, que ces propos sur l'espérance ne soient rien d'autre qu'un hymne à la gloire d'un bon sentiment. L'eschatologie chrétienne doit promouvoir une nouvelle manière de penser et d'agir au contact des choses et des situations de ce monde, tant que l'espérance ne s'en empare pas pour les transformer de la pensée et de l'action des hommes. Elle reste à rebours du bon sens et inefficace. Donc vous le voyez bien, l'espérance doit être communicable, communiquée, elle doit façonner des êtres humains qui penseront et qui agiront à partir de cette espérance. La théologie de Moltmann est orientée vers la praxis, c'est-à-dire vers la mise en pratique, vers l'action. Sinon, on risque de ne parler que d'un bon sentiment. On risque d'utiliser la religion et la foi comme une sorte de confiture, je reprends l'expression de Daniel Margera, qui reste à la surface des choses, qui est certes agréable et bonne et douce, mais sans profondeur. Et ce beau mot, hein, l'amour n'est pas sucre, mais sel. Et donc Moltmann est à l'origine d'un courant en théologie chrétienne qu'on va appeler la théologie politique. Une théologie qui cherche à penser les implications, les conséquences politiques de l'Évangile, mais aussi du message biblique. Pas de politique partisane, mais de du politique, du vivre ensemble. C'est bien connu que l'Ancien Testament, ou la Torah, ne propose pas de dualisme comme on en trouve dans la pensée hellénistique. Dans la pensée grecque, on trouve l'idée que le salut consiste à être sauvé de cette terre, de ce corps. Moltmann ne veut pas perdre le lien organique avec la promesse faite par Dieu à son peuple Israël. Cette promesse n'est pas pour un ailleurs, un au-delà de la matière, au-delà qui transcende le monde. Son horizon est cette vie terrestre et le shalom de cette vie, la plénitude de vie de cette vie. Mais en même temps, le Nouveau Testament relance la promesse qui est celle du Premier Testament, de l'Ancien Testament, en l'élargissant, en l'universalisant. Un débat s'instaure, il parle d'un procès, entre l'espérance chrétienne, fondée sur la résurrection du crucifié, et en lien avec la promesse faite à Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, le peuple d'Israël. Moltmann souligne la continuité entre les deux testaments, sans ignorer les éléments de discontinuité. Cet horizon universel, le fondement christologique, l'événement pascal. L'horizon de l'espérance chrétienne, pour Moltmann, ce n'est pas ma vie, mon salut, mais bien celui de la nouvelle création tout entière. Ce procès dont je viens de parler, on l'aperçoit dans la cinquième citation, que je vous propose de lire, sans une référence à ce qui a été promis auparavant, l'Évangile perd sa propre référence à l'avenir eschatologique et risque de se changer en un discours gnostique de révélation, voire un salut de, être sauvé de la matière. vers l'idée, vers l'immatériel. L'Évangile, en se présentant comme la mise en vigueur de la promesse du Dieu d'Abraham par ce même Dieu, doit entrer en procès avec le judaïsme au sujet de l'avenir de la promesse. Donc aussi un élément de discontinuité qu'il ne veut pas éluder ou passer sous silence. Je propose de passer à la sixième citation immédiatement. La nouvelle espérance du royaume conduit à être solidaire de l'angoisse et du soupir de toute la création qui attend la liberté des enfants de Dieu. Et il renvoie à Romains 8, qui est le grand chapitre de l'espérance dans le Nouveau Testament. Ainsi, le royaume de Dieu est-il présent ici-bas comme une promesse et une espérance en vue de l'horizon d'avenir de toutes choses. On perçoit toutes choses dans leur historicité parce qu'elles n'ont pas encore leur vérité en elles-mêmes. Elles sont en chemin, c'est leur historicité, elles sont dans une histoire. Si le royaume est présent comme une promesse et une espérance, cette présence se définit par la contradiction que le futur, le possible et le promis élèvent contre une réalité mauvaise. Donc encore une fois, l'espérance ne détourne pas du monde, elle nous conduit à vivre en solidarité avec ce monde et surtout avec celles et ceux qui souffrent, qui sont marginalisés, persécutés, qui sont sans voix, qui n'ont pas de voix, que nous ne voyons pas, que nous n'entendons pas. On est dans cette idée aussi de Romains 8, de la création tout entière qui gémisse, qui passe par les douleurs de l'enfantement, qui espère contre toute espérance. C'est ce chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Septième citation. Si la promesse du royaume de Dieu déploie un horizon d'avenir eschatologique et universel sur toute chose, que Dieu soit tout en tous, l'espérant ne saurait faire preuve à l'égard de la terre d'une résignation religieuse ou cultuelle. Il est au contraire obligé de prendre soin avec douceur de la terre soumise à la mort et aux puissances de vanité pour conduire toutes choses à la rencontre de leur être nouveau. L'espérance donc ne conduit ni à la résignation, ni à l'inaction, ni à la fuite de la réalité, ni à la quiétude spirituelle ou à la satisfaction spirituelle. Elle rend inquiet. Elle nous pousse à être dérangés par tout ce qui s'oppose à l'intention de Dieu, intention de justice, de paix pour son peuple, pour l'humanité. Et là, évidemment, Moltmann a à l'esprit la célèbre phrase de saint Augustin au début des Confessions sur le cœur, notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi. L'être chrétien en chemin, être chrétien en chemin, être croyant en chemin, c'est vivre avec un cœur qui n'est pas encore dans la couillesse, dans le repos, qui est sans repos et qui aspire au repos. S'agit-il avec cette septième citation, mais aussi avec les autres, d'un pur lyrisme de la pensée, dans le style de l'affirmation péremptoire ? C'est en tout cas ce qu'un théologien contemporain de Moltmann, Hans-Georg Geyer, pensait. C'est dans cet ouvrage de débat au sujet de l'ouvrage de Moltmann que Geyer exprime cette critique. Un pur lyrisme de la pensée, dans le style de l'affirmation péremptoire. Mais en fait, c'est très très vague. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Sur la solidarité, etc. S'agit-il de consignes abstraites, d'un programme encore très vague? Peut-être. En même temps, il y a une orientation qui me semble assez précise. Mais ensuite, ce qui est à inventer, n'est-ce pas? C'est comme la règle d'or, c'est le commandement d'amour du prochain, c'est à inventer. C'est une orientation, une direction qui est commandée, qui est donnée. Mais ensuite, c'est à l'imagination de trouver une manière d'incarner, de réaliser ce commandement. Mais pour vous dire, les débats dans les années 60, voyez, ils tournent notamment autour de cette impression de vague, de flou, sur qu'est-ce que Moltmann entend vraiment par ses implications, ses conséquences de l'espérance chrétienne. Huitième citation. la promesse du royaume de Dieu où toutes choses seront rétablies dans le droit, dans la vie, dans la paix, dans la liberté et dans la vérité, n'est pas exclusive, mais inclusive. Et donc l'amour de celui qui espère est aussi inclusif. Son attitude de prochain et sa compassion sont aussi inclusives, n'excluant rien, mais incluant dans l'espérance tout ce en quoi Dieu sera tout. La promissio du royaume, donc la promesse, est le fondement de la missio de l'amour dans le monde, de la mission donc de l'amour dans le monde. La promissio du royaume est le fondement de la missio de l'amour dans le monde. C'est poussé par les arts de cet esprit que l'on se met à aspirer à une réalité remplie de l'esprit et créée par l'esprit. Et à nouveau la référence à Romains 8, décidément, vraiment un texte clé pour Moltmann et pour toutes les personnes qui, en théologie chrétienne, cherchent à penser le sens de l'espérance. N'excluant rien, vous avez remarqué ces mots, la promesse du royaume de Dieu n'est pas exclusive, elle n'exclut rien, elle est inclusive. J'ai envie de dire oui, peut-être. Mais peut-être aussi n'excluant rien qui n'ait été converti par le feu de l'amour de Dieu. Comment est-ce que Moltmann réconcilie cette situation 8 sur l'aspect inclusif de la promesse du royaume et l'idée qu'il martèle par ailleurs d'une contradiction entre cette promesse et la réalité qui nous entoure? Il y a contradiction entre la promesse de cet avenir de paix, de justice et la réalité qui nous entoure. Est-ce que la promesse du royaume de Dieu peut être réconciliée avec l'antisémitisme, avec le racisme, avec la violence, la haine de l'autre, avec le militarisme débridé et tous les autres maux qui caractérisent notre société et notre monde? N'y a-t-il pas, c'est une question qui m'anime en ce moment, qui me travaille, n'y a-t-il pas un moment exclusif dans la promesse du royaume, au point où telle église chrétienne ne peut que rompre avec telle ou telle autre église chrétienne qui trahit cette promesse du royaume, par exemple en légitimant théologiquement une vision sociale fondée sur la discrimination raciale. Dans les années 80, l'Alliance réformée mondiale, donc la communauté des églises réformées du monde, a banni une église réformée d'Afrique du Sud en disant il y a hérésie. N'y a-t-il pas donc, est-ce que c'est pas un peu trop joli, un petit peu trop rapide? Moi je suis pour l'inclusion, ne me méprenez pas, mais il y a un moment donné où il faut dire non aussi à certaines choses. Et donc je me demande si Moltmann ne va pas un peu vite en besogne en disant que c'est tout inclusif, etc. C'est une question. Peut-être qu'on peut en parler tout à l'heure. Neuvième citation. Le salut, soteria en grec, doit aussi être compris au sens de l'Ancien Testament comme le shalom. Ce qui ne veut pas dire salut de l'âme, délivrance individuelle hors d'un monde mauvais, consolation seulement pour une conscience éprouvée, mais de plus ou plutôt réalisation d'une espérance eschatologique, donc finale, de justice, d'humanisation de l'homme, de socialisation de l'humanité, de paix dans toute la création. La notion de salut, donc, doit être interprétée en lien avec celle de shalom, de toujours interpréter la deuxième parole à partir de la première. C'est Bonhoeffer qui disait des choses comme ça. Ne pas oublier la première parole si on veut essayer de comprendre la deuxième parole. Interpréter le deuxième, le Nouveau Testament à partir de l'Ancien et réciproquement. Dixième et dernière citation, j'espère que ça vous donne un peu un sens du contenu de cet ouvrage. L'espérance de résurrection donne naissance, et là c'est la toute fin de l'ouvre, l'espérance de résurrection donne naissance à une nouvelle compréhension du monde. Ce monde n'est pas le paradis de la réalisation de soi, comme dans l'idéalisme. Mais on pourrait aussi dire dans nos sociétés très contemporaines, c'est encore très actuel, ce monde n'est pas le paradis de la réalisation de soi, comme dans l'idéalisme. et il n'est pas l'enfer de l'aliénation de soi, comme dans la littérature romantique et dans la littérature existentialiste. Le monde n'est pas encore achevé. C'est cette historicisation du monde dont il parlait tout à l'heure dans une autre citation. Le monde n'est pas encore achevé. Il progresse, il est en chemin. On le comprend au contraire comme se trouvant en histoire. C'est donc le monde du possible, au sein duquel on peut être au service de la vérité, de la justice et de la paix promise et à venir. Ouvrir à ce monde l'horizon de l'avenir du Christ crucifié, c'est là la tâche de la communauté chrétienne. Là, ce sont la dernière phrase de l'ouvrage précédée du dernier paragraphe, en gros. Ouvrir à ce monde l'horizon de l'avenir du Christ crucifié, c'est là la tâche de la communauté chrétienne. Moi, j'ai envie de répondre, est-ce là la seule tâche, cette tâche missionnaire ? Non. La tâche consiste également à œuvrer conjointement avec toutes les personnes de bonne volonté à cette tâche d'humanisation du monde. Moltmann, il me semble, ne souligne pas suffisamment cette dimension qui sera fortement mise en évidence dans Gaudium et Spes. Collaboration pour en vue de l'humanisation du monde. Le mot d'humanisation est un très beau mot. Si vous le traduisez en allemand, vous avez le mot Menschwerdung, qui est le mot en allemand pour incarnation. Le mot incarnation en allemand est très très beau, Menschwerdung, devenir être humain, devenir humain. Et donc la Menschwerdung du Fils en Jésus appelle notre propre humanisation, une réflexion possible en théologie chrétienne. La pensée de Moltmann, je conclus, sur l'espérance, sur l'eschatologie, demeure très stimulante. L'espérance comme puissance critique qui nous renvoie vers notre réalité pour que nous y œuvrions ensemble de manière solidaire. Voilà qui reste tout à fait d'actualité, me semble-t-il. Moltmann cherche l'équilibre entre l'enracinement dans la spécificité chrétienne, résurrection de Jésus, le crucifié, mais il cherche l'équilibre aussi avec la continuité avec Israël, pas seulement l'enracinement dans la spécificité chrétienne, la continuité avec Israël et l'horizon universel de cette espérance, cette ouverture universelle. Nous vivons dans le pas encore. En théologie chrétienne, on est toujours en train de penser cette dialectique du pas encore, du déjà et du pas encore. Nous vivons dans le pas encore. C'est ce que Moltmann souligne très fortement dans son ouvrage en 64. On va lui reprocher d'être un peu trop unilatéral, d'avoir oublié le déjà. Tellement il veut accentuer le pas encore, ce mouvement, ce cheminement, cette histoire. Nous vivons dans le pas encore. Dieu n'est pas tout en tous. Ce verset de 1 Corinthiens 15, 28. Moltmann souligne le pas encore plutôt que le déjà, même si le déjà est présent comme fondement de la promesse de la résurrection, un avenir de vie. Mais le déjà, donc, renouvelle la promesse, il la ratifie, la promesse qui remonte à Abraham. Le déjà de la résurrection du crucifié ratifie la promesse mais ne l'annule pas. Et donc voilà la pensée de Moltmann sur l'espérance, influencée par Ernst Bloch, penseur marxiste. Moltmann est lui aussi très influencé par la pensée socialiste, vous l'aurez peut-être senti. Le Dieu de Moltmann est moins au-dessus de nous. Quand on pense à Dieu, on pense souvent au Très-Haut. Dieu est moins au-dessus de nous qu'au-devant de nous. Au-devant, parce qu'il est l'ultime, la fin, l'eschaton, et venant vers le monde, s'approchant du monde. Dieu, pour Moltmann, mais il s'appuie ici sur un verset de l'Apocalypse, celui qui est, qui était, et non pas qui sera, mais qui vient. Dieu en tant qu'il vient, qu'il advient au monde. Voilà, j'espère que c'était plus ou moins clair et que vous avez un peu ressenti pourquoi cet ouvrage a stimulé tant de lecteurs dans les années 60 et au-delà. Je donne un cours en ce moment à Lausanne, à l'Université de Lausanne, sur la pensée de Moltmann, et je fais un parcours au travers de cet ouvrage avec mes étudiants, et puis de deux autres ouvrages qui ont suivi ce livre sur l'espérance. Merci beaucoup de votre attention, et je me réjouis de notre échange.
Là, je vais vous dire professeur, parce que c'était un très beau cours. Là, vous nous avez donné un cours sur un homme dont on parlait beaucoup et souvent entre nous. Moi, je n'avais pas lu le livre, en tout cas un de ses livres, notamment celui que vous nous avez fait étudier ce soir. Peut-être d'autres amis ici, chrétiens, ont eu l'occasion de lire. Mais ce soir, vous nous avez permis, même n'ayant pas lu le livre, de comprendre la pensée de cet homme qui a fait effectivement un chemin assez remarquable dès son enfance et en tant que personne allemande, ayant vécu ce qu'il a vécu et ce qu'il a vu. Je pense que c'est à nos amis chrétiens que je vais le plus ce soir demander d'être en questionnement avec vous, même si en tant que personne juive il y a des choses qui m'ont bien sûr interpellée, des liens que j'ai pu faire, parce que il est malgré tout et comme tout protestant toujours porté vers l'origine, et ça c'est important, donc ça donne des liens très forts. Et cette pensée de l'espérance, même si vous la mettez beaucoup, et ce qui est totalement normal, vers la personne de Jésus et sa résurrection, et ça pour le monde juif, c'est un peu plus difficile pour nous, n'est-ce pas, amis juifs, de pouvoir rebondir là-dessus, parce qu'on est un peu ignorant de cela. Ce n'est pas notre concept. Par contre, le fait d'être dans le monde, ici et maintenant, et d'être en action, ça me parle beaucoup, et je pense que ça peut beaucoup nous parler au niveau du judaïsme. Merci encore, et c'est d'autant clair, merci de nous avoir fait ces documents, parce que ça nous permettra de relire. Ce n'est pas simple, ce n'est pas une écriture simple, mais grâce à ce que vous avez pu commenter, ça permettait d'éclairer notre connaissance. Donc, je vais laisser maintenant le questionnement se faire. Si... Merci.
Moi, j'avais deux petites questions un peu d'ignorant à poser. La première, c'était, je trouvais que l'observation de Karl Barth était plutôt féroce, en disant finalement vous avez baptisé la réflexion d'Ernst Bloch. Et ce qui n'était pas un peu plus nuancé finalement, parce que vous n'avez pas trop défendu Moltmann sur ce point-là. Voilà. Et puis j'avais peut-être une autre question, là plus en rapport avec nos amis juifs. Quand vous avez parlé de la question du shalom, il me semble qu'il y a dans la spiritualité juive quelque chose qui tourne autour de cette idée que le shalom, c'est vraiment la paix que les hommes ont en charge de développer. Voilà.
C'est vrai que Barthes est sévère. Il dit ailleurs, j'espérais que Moltmann serait le fils de la promesse. Donc Barthes attendait le fils de la promesse, évidemment une référence à Yitzhak. Et non, c'est pas Moltmann, le fils de la promesse. Il s'en est rendu compte donc dans les dernières années de sa vie. Donc c'est les quatre dernières années de sa vie, 64 à 68, et il y a quelques textes ici ou là où on voit Barthes, c'est vrai, se positionne de manière un peu critique par rapport à Moltmann. Vous avez vu donc cette autre lettre privée à quelqu'un d'autre où il est plus élogieux. Mais le fils de la promesse, s'il y en a un, ce sera un autre grand penseur allemand, contemporain de Moltmann, c'est Eberhard Jungel, qui lui aussi est encore en vie, qui est autrement plus difficile à lire. Si vous avez trouvé ça difficile, lisez Jungel et vous verrez ce que c'est qu'un théologien vraiment rigoureux, mais en même temps extrêmement stimulant. Pour moi, c'est le plus grand penseur chrétien encore en vie, Eberhard Jungel. Je l'admire tant que je me déplace à Tübingen fin avril pour le rencontrer, pour lui remettre un autre ouvrage que je viens de publier. Moltmann, j'aurais pu aussi aller le rencontrer, mais non, je préfère aller voir Eberhard Jungel dans cette même ville de Tübingen où ils vivent les deux, Hans Küng et quelques autres. donc, oui, il est un peu sévère. Et puis alors, l'autre chose, c'est que Moltmann est au plus proche de Barthes qu'il l'aura été de toute sa carrière. C'est-à-dire qu'il y aura eu des accents, des démarcations encore plus vives au fil des années. Si vous lisez sa pneumatologie, donc cette doctrine de l'esprit, de la fin des années 80, vous voyez à quel point il se démarque de manière encore plus ferme par rapport à Barthes. Là, il est encore très orienté, très influencé par le christocentrisme de Karl Barthes. Et puis cette manière de vouloir dépasser le théisme, une réflexion théiste, c'est-à-dire philosophico-religieuse sur Dieu, qui commence avec un Dieu absolu, etc. Non. La connaissance de Dieu, elle, se trouve dans cette histoire d'une promesse, d'une alliance, etc. Donc ça, c'est un désir de dépasser le théisme. Et ça vient déjà de Barthes, et Moltmann l'a en commun avec Jungel, ce désir. Votre deuxième question sur le shalom, ben vous avez bien compris, donc cette manière de rappeler le shalom, c'est pour éviter que la conception du salut, de soteria, soit conçue comme un salut de, être sauvé de ce monde. Ça, c'est la tentation gnostique d'un mythe de la rédemption. Dietrich Bonhoeffer va lui aussi s'élever contre cette manière d'interpréter le salut dans ses lettres de prison. Je ne sais pas si vous avez lu Résistance et soumission, ce volume de Dietrich Bonhoeffer. Il y a des intuitions très très claires contre le mythe de la rédemption. Donc, ce souvenir de cette dimension du shalom permet de ne pas concevoir le salut comme une fuite du monde. Et là vraiment, il y a encore des choses très riches à développer et à préserver de cette intuition de Moltmann, il me semble.
Écrire les noms propres au tableau. Voilà.
Excusez-moi, je suis totalement ignorante en théologie, mais quand vous parlez de théologie politique en commentant la citation 4, effectivement, je pense que, enfin peut-être que je me trompe, mais je pense que Moltmann est très, très proche de saint Augustin, en fait. Parce que oui, puisque l'espérance ne peut que se réaliser dans l'histoire, dans le vivre ensemble, hein, de la cité terrestre qui marche vers la cité de Dieu. Du reste, Bloch était lui-même un lecteur d'Augustin, et voilà, c'est simplement son rapprochement qui me paraît. C'est quand même très augustinien comme pensée. Est-ce que je me trompe de faire ce rapprochement ?
Je ne suis pas aussi sûr. Je ne suis pas aussi certain qu'il y ait une convergence avec Augustin. Parce que je pense aux grands théologiens contemporains qui sont très marqués par l'augustinisme. Deux grandes figures, Hans Urs von Balthasar, théologien suisse-allemand, et Josef Ratzinger, qui est en continuité avec Balthazar. Ce ne sont pas des penseurs qui sont très enclins à privilégier l'interprétation politique, les dimensions politiques de l'Évangile. Et ils se réclament d'Augustin. Alors après, la question c'est de quel Augustin on se réclame. Il n'est pas impossible qu'on puisse trouver des éléments dans la pensée d'Augustin qui se rapprochent de ce que Moltmann écrit dans cette citation 4. Mais Augustin, c'est aussi le penseur de l'intériorité, de la communauté monastique, qui se retire du monde pour prier les psaumes. J'ai rien contre le monachisme, au contraire. Très intéressé par le monde monastique. Et puis la cité, la Civitas Dei, à laquelle on aspire. Donc je serai plus nuancé sur la continuité entre la pensée d'Augustin et celle de Moltmann sur ce point.
Peut-être puis-je dire quelque chose à ce propos qui va aller dans le côté du judaïsme. Comme ça, ça fait un petit peu aussi, n'est-ce pas, notre rencontre judéo-chrétienne. Quand vous dites effectivement que l'eschatologie chrétienne doit promouvoir une nouvelle manière de penser et d'agir au contact des choses et des situations de ce monde, moi je pense que tout le judaïsme est là-dedans. Nous avons à agir au contact des êtres, des choses, et c'est pour ça que Dieu nous a donné ses lois, qu'il nous a proposé un mode de vie, qui est le judaïsme. Parfois, je me dis, est-ce que la lecture des textes, puisque là, dans le monde protestant, c'était lu, contrairement souvent au monde catholique, est-ce qu'il y avait déjà l'inspiration ? Parce que le shalom, c'est pas quelque chose en l'air. En fait, dans la tradition juive, c'est vraiment un petit peu ce que disait ma petite histoire, c'est les pieds sur terre. C'est être là, présent, dans ce que l'on a à faire, pour soi, certes, mais c'est surtout aussi en rapport aux autres. En vivant bien soi-même, on arrive à bien vivre avec l'autre, voir les autres, voir le prochain. Et ce qui tourne là-dedans, bon, c'est un concept que je trouve très intellectuel, fortement spirituel, magnifique. Mais dans la simplicité, est-ce que le fait de pouvoir justement bien agir là où l'on est n'apporterait-il pas ce que Moltmann demande et cette espérance d'un monde meilleur, d'aller vers un devenir, vers un avenir, qui est de finalement permettre au monde d'avancer et de se parfaire. C'est ce que Dieu demande, de continuer sa création, tout simplement, dans le respect, l'amour du prochain. Vous le dites, hein, c'est dit autrement, mais c'était peut-être aussi pour répondre à madame sous une autre forme de réponse. Voilà. Est-ce que nos amis juifs veulent-ils répondre à cela, ou bien d'autres questions aussi, bien sûr, peuvent être soulevées.
Je vais mettre les pieds dans le plat. Je vous ai, ou est-ce que je me trompe, senti un peu critique avec la philosophie. Est-ce que la théologie peut très bien aussi s'inspirer et avoir une interdisciplinarité entre philosophie, théologie, et on peut même rajouter psychanalyse. La philosophie peut aussi aider à mieux comprendre cette dimension eschatologique. Je ne crois pas qu'on doit être uniquement dans la spécialité théologique. Et la philosophie peut très bien aussi se mettre au service de cette eschatologie. Qu'en pensez-vous ?
Tout à fait. D'ailleurs, Moltmann lui-même est en dialogue avec Ernst Bloch.
dans les années 60. Et dans l'édition du livre, il y a un dialogue entre, il y a un dialogue imaginaire, quoi, entre Moltmann et Bloch. Quand je parlais, ou quand Moltmann parle de distance critique entre philosophie et théologie, c'est seulement à propos d'une conception grecque, essentiellement grecque, de Dieu. Comme un Dieu intemporel, atemporel, déconnecté de l'humanité, du temps et aussi de la souffrance. Complètement apathique, donc sans pathos. Un Dieu qui ne subit rien, etc. C'est ce Dieu-là dont Moltmann ne veut pas au nom du Dieu biblique. Donc là, on est vraiment dans la distinction pascalienne entre le Dieu des philosophes et le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse et de Jésus de Nazareth. Donc c'est sur ce point-là du théisme que Moltmann est très critique, mais pas sur la philosophie en général. Il est très influencé par la pensée de Hegel, mais aussi par Kierkegaard. Il est très influencé par Hegel. Et ça se voit encore plus peut-être dans son deuxième grand ouvrage sur le Dieu crucifié, où il parle d'une contradiction en Dieu. Le Père abandonnant le Fils étant abandonné par le Père, et l'Esprit Saint reliant les deux, malgré, dans leur distance, dans leur abandon, etc. Donc là, il y a une pensée très marquée par Hegel, par l'idéalisme allemand, dans certains ouvrages de Moltmann, y compris aussi dans la théologie de l'espérance, mais je n'ai pas vraiment mis l'accent sur cet aspect-là, sur cette dimension-là de l'ouvrage. Parce qu'il est question de la mort de Dieu à un moment donné dans cet ouvrage, et là évidemment, Moltmann dialogue avec Hegel. Donc ce n'est pas la philosophie en tant que telle qui est l'ennemi, c'est une certaine conception de Dieu qui contredit le Dieu vivant dont témoigne l'Écriture. C'est ça, pour être plus précis. Mais Moltmann est un penseur très ouvert sur l'interdisciplinarité. Ouais.
Ma question est plutôt d'ordre historique et par rapport à la vie de Moltmann. En tant qu'Allemand, en tant que jeune ayant vécu ces expériences de jeune, est-ce que je pense qu'il a dû être sensible à aux prises de position de l'Église évangélique allemande et en contrepartie d'une certaine façon aussi de position de l'Église confessante. Alors je voulais savoir si cela, à votre avis, a une place dans son travail de théologie. Et puis deuxième question plus aussi précise. Quelle connaissance et quelle attitude avait-il par rapport à ce qu'a fait Dietrich Bonhoeffer? Merci.
Alors, il était trop jeune pour pouvoir reconnaître tous ces débats des années 30 entre l'Église confessante et puis l'Église infiltrée par les idées brunes. Mais il était très marqué, comme tout le monde, par les écrits posthumes de Dietrich Bonhoeffer. Et vous avez vu, il a entendu Martin Niemöller dans ce camp de Norton en Angleterre. Martin Niemöller, une des grandes figures de l'Église confessante. Dès 1933, il fonde le Pfarrer Notbund, une alliance pour les pasteurs, pour essayer de les soutenir, ceux qui ont perdu leur emploi parce qu'ils avaient un arrière-grand-père juif, etc. Donc Martin Niemöller, immense figure de la Bekennende Kirche, de l'Église confessante allemande. Moltmann le rencontre, ou l'entend, le rencontre pas, mais l'entend déjà comme prisonnier de guerre en Allemagne. Et puis ensuite, évidemment, la publication des lettres de Bonhoeffer marque le champ de la théologie chrétienne, surtout protestante, mais aussi chrétienne dans les années 60. C'est là que Bonhoeffer éclate vraiment, dans les années 60, devient une figure majeure avec ses intuitions laconiques, un peu les aphorismes, un peu yègues. Ça donne à penser, parce que c'est incomplet. C'est des écrits comme ça, c'est des intuitions fulgurantes qu'il met sur le papier dans ses lettres de prison. Donc voilà, et puis dans la théologie de l'espérance, le mot de Nachfolge apparaît régulièrement, la suivance, qui est vraiment un concept bonhoefférien, la suivance de Jésus. Être chrétien, c'est se mettre à la suite de, dans la foi et l'obéissance. Pas de foi sans obéissance, pas d'obéissance sans foi, c'est deux choses. C'est ça l'existence chrétienne pour Bonhoeffer. Moltmann est dans cette ligne-là. Mais Bonhoeffer lui-même est un disciple de Barthes.
Et donc, Volkmann aussi, mais il se démarque surtout du jeune Barthes de 1922, de 1920, du Römerbrief, de cet épître aux Romains. Et il dit moins de choses sur le Barthes de la maturité, du Barthes contemporain, encore en vie des années 60, parce qu'en fait, il me semble qu'il est finalement assez proche de ce Barthes-là. Et donc, il a tellement envie de se démarquer qu'il ne va pas tellement parler du Barthes de la maturité. C'est un des problèmes avec Moltmann, c'est qu'il n'avoue pas ses dettes très nettement. Il le fait dans son autobiographie récente, mais à ce moment-là, Jungel va lui reprocher mais de ne pas simplement admettre tout ce qu'il doit à certains penseurs. Ça répond à vos questions, plus ou moins ?
Et puisqu'on parle d'eschatologie et que monsieur donc a posé la question du rapport éventuel de la philosophie et de la théologie, il y a quand même une chose extrêmement importante, c'est que le christianisme a permis de changer la pensée du temps. On est passé du temps circulaire des Grecs, au temps linéaire, et le premier qui a pensé le temps en termes d'eschatologie, c'est Augustin, c'est pour ça qu'il est tellement important. Et Hegel l'a dit à maintes reprises dans ses textes que saint Augustin était le premier philosophe qui rompait donc avec la philosophie grecque. C'est pour ça que, oui, avec sa pensée de la cité terrestre en marche vers la cité de Dieu.
Augustin est vraiment très marqué,
imbibé
de platonisme, de
néo-platonisme. Ah, mais pas dans sa pensée du temps. C'est le premier penseur du temps, Augustin. Alors, c'est l'écoulement du temps.
La philosophie de l'histoire. La philosophie de l'histoire
que Hegel va séculariser à sa manière. Voilà. Il va déchristianiser tout ça, mais encore très très marqué par la philosophie de l'histoire d'Augustin. C'est la grande thèse de Karl Löwit. Peut-être que vous connaissez cet auteur, disciple de Martin Heidegger, qui va dire Nietzsche, Hegel, tous ces gens-là ont repris la philosophie de l'histoire chrétienne en la sécularisant, en la transformant à leur manière. Une thèse très très intéressante qui remonte aux années 50. Mais Augustin est vraiment imbibé de platonisme et de néo-platonisme. Et d'où un peu ma résistance à l'assimiler à cette théologie politique. Non, non. Augustin est du côté de ceux qui vont encore recourir à la violence. C'est son interprétation du verset de Luc, « Compelle intrare, force-les d'entrer ». Il est plutôt du côté de « on va utiliser la violence quand il faut contre les hérétiques ». Plutôt que « oh, les hérétiques, bon, ça c'est toute la question aussi de la tolérance et tout, on ne va pas être anachroniste et imaginer qu'Augustin aurait pu être un prophète, un pionnier de la tolérance au 5e siècle ». Mais son platonisme fait peut-être qu'il n'est pas sur la même longueur d'onde que Moltmann sur les implications politiques. Là, il y a Marx qui est passé par là. Et il y a le socialisme religieux. Le christianisme social en France, mais aussi le social gospel en Angleterre et aux États-Unis. Mon ouvrage porte en fait là-dessus, sur le christianisme social. Moltmann est dans cette ligne-là. Donc c'est entre la théologie de la libération et le christianisme social qui existe encore, évidemment, dans les années 60, qui n'est pas dans le piteux état dans lequel il est maintenant. Et donc il est à la charnière et il va être repris, Moltmann, mais aussi critiqué parfois par les théologiens de la libération. Mais il va nourrir la réflexion des théologiens de la libération. Voilà. Et c'est pour ça qu'il va avoir cet écho international. Parce qu'il est attentif à la quête de liberté des peuples de ce monde. Et dans l'ère post-coloniale, etc., ça fait sens. Aussi dans les hémisphères sud. Donc Moltmann, la réception de Moltmann, sa Wirkungsgeschichte, dans l'histoire de la réception de la pensée de Moltmann, elle est gigantesque, elle est énorme. Parce que cet homme-là, et si vous voyez dans sa biographie, vous avez des photos de Moltmann en Indonésie, Moltmann en Afrique du Sud, Moltmann au Chili, etc. Voilà. C'est pas le cas des autres grands penseurs allemands de son temps, sauf du côté catholique, son ami Johann Baptist Metz, qui est l'autre grande figure de la théologie politique en Allemagne, catholique donc, que Moltmann rencontre au 80e anniversaire de Ernst Bloch, une petite fête. Et Moltmann rencontre Johann Baptist Metz, qui est à ce moment-là le penseur du côté catholique qui réfléchit un peu sur les mêmes, dans les mêmes lignes, sur les mêmes lignes que Moltmann.
Est-ce que ça ne nous renvoie pas aux fondamentaux de l'identité européenne, de la culture européenne, cette problématique permanente entre nos racines grecques et les racines judéo-chrétiennes? Et que finalement, 2000 ans après, on a toujours cette tension par rapport à nos deux référents, cette tension entre le référent grec, gréco-romain, et le référent judéo-chrétien. Et au passage, je dirais d'ailleurs que le christianisme a toute cette dynamique eschatologique par ses racines judaïques, juives. Alors, que pensez-vous de cette pérennité au cœur même de la culture européenne, de cette tension permanente entre nos deux fondamentaux culturels?
Pérennité très fructueuse. C'est déjà Tertullien au IIIe siècle qui pose la question. Qu'est-ce qu'Athènes a à dire à Jérusalem? C'est comme ça qu'il formule la question. Et c'est vrai que, voilà, c'est notre double identité, notre double héritage, et c'est très fructueux. Et là, j'apprécie la pensée de Jünger qui dit, toutes ces traditions métaphysiques théistes, il ne faut pas l'évacuer comme ça du revers de la main. Il faut lui parler, il faut un échange, il faut un vrai dialogue. Parce que c'est aussi comme ça qu'on peut essayer de changer l'autre, ou en tout cas de s'enrichir mutuellement, plutôt que de simplement dire non, d'emblée. C'est pour ça qu'il ne faut pas... Mais il faut en même temps entrer en dialogue critique, etc. Vous voyez ? Ce que j'apprécie, moi, dans Moltmann, quand je parlais à la fin de cet équilibre entre la spécificité chrétienne, la continuité avec Israël, et puis l'horizon universel, c'est qu'on a tendance, parfois, dans le dialogue interreligieux, dans la théologie des religions, comment est-ce qu'on pense la présence des religions dans le monde, parfois on est tenté par, et c'est très moderne, c'est très 18e, très déiste, de réduire les choses au plus petit dénominateur commun. Et pour moi, c'est vraiment un appauvrissement du dialogue quand cela se fait. Moi, je préfère un dialogue où les gens sont enracinés, certes ouverts en même temps, mais ouverts parce qu'ils sont enracinés, plutôt que ouverts en dépit du fait ou malgré le fait qu'ils sont enracinés. Pour moi, le grand défi au XXIe siècle, c'est de convaincre qu'il est possible, qu'il devrait être nécessaire, d'être ouvert parce qu'on est enraciné quelque part. Ne pas avoir peur de ses racines, de les exprimer. Moltmann, j'apprécie le fait qu'il se centre sur l'événement pascal, c'est le centre de la foi chrétienne, c'est le cœur de la foi chrétienne. Donc voilà, il l'affirme comme ça, il ne va pas l'imposer, mais il l'affirme, il confesse que l'espérance chrétienne, elle est animée par cet événement, mais cet événement, on ne le comprend pas si on ne le situe pas dans cette histoire d'une promesse qui est adressée à l'être humain, et au peuple d'Israël d'abord, et qui n'est pas invalidée par cet événement, par cette deuxième parole en Jésus. Elle n'est pas invalidée.
Merci, c'est très clair, et moi je voudrais donner la parole au Père Barcellini, parce que toujours vous nous parlez de cette belle promesse, toujours.
Ah, bien sûr. Non, moi ce que je voudrais, c'est que vous avez évoqué tout à l'heure dans les amitiés judéo-chrétiennes, hein, l'espérance juive et l'espérance chrétienne. Moi je pense, depuis que je suis aux amitiés judéo-chrétiennes et que j'approfondis plus, je fais un lien très profond avec de lire l'Ancien Testament, entre guillemets, hein, le premier, voilà. Voilà. Et l'espérance que je vis en Jésus-Christ, au contraire, ça me donne une vision de l'espérance que je n'avais pas peut-être avant. Ça rejoint un peu celle de Moltmann. Hein. Je veux dire par là, vous vous souvenez, j'avais fait une causerie sur la terre promise. Voilà. Avec l'espérance juive est tournée vers la terre. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc, ça nous conduit, nous chrétiens, à dire qu'on ne va pas vers un autre monde, mais ce monde qui devient autre. Voilà. C'est bien l'idée de Moltmann, ça. Jésus n'a jamais parlé d'un autre monde non plus. Il a parlé de ce monde qui doit devenir, qui est appelé à devenir autre. Et là, si on prend toute l'histoire de la Bible, Israël, c'est bien ce monde qui devient autre. Voilà. mais qui devient autre dans la promesse de Dieu et le mystère de Dieu auquel nous faisons foi. Juifs et chrétiens, nous avons foi dans cette promesse de Dieu. Comment se réalisera-t-elle? Ça nous dépasse. Voilà. Mais il me semble que là, c'est un point important pour moi. Voilà. Puis alors, l'autre aspect que je découvre bien dans l'histoire d'Israël, c'est que tout, et vous l'avez dit, que tout est en état d'achèvement. La création n'est pas achevée. La création est faite pour être achevée. L'homme lui-même n'est pas achevé. Et l'homme est appelé à achever la création, mais pour s'achever lui-même en achevant la création. Et tout à l'heure, on parlait du mot shalom, mais moi, je ne sais pas comment. Mais shalom, ça veut dire achèvement. C'est le souhait de l'achèvement. C'est le souhait de la réalisation. Et donc, quand on se dit shalom, nous sommes tous en marche vers un achèvement. Chrétiens et juifs, quand ils se donnent la paix, nous sommes dans la dynamique de la promesse de Dieu qui nous conduit vers notre achèvement et l'achèvement de l'humanité.
Juste amen.
Père Marcellini a toujours des très belles paroles justes et qui touchent au cœur. Et c'était la suite justement de ce que vous disiez, ça allait dans ce sens.
Merci beaucoup. Je vais commencer par une incise qui va me valoir de me faire gronder tout à l'heure, mais je fais quand même. C'était pas le sujet direct ce soir, mais comme il y a eu des interventions à ce propos, je voudrais dire, à propos d'Augustin, immense personnage, mais dont certains de ses écrits, et surtout la manière dont on, enfin pas surtout, et la manière dont ils ont été traités par la suite, ont été dramatiques et même tragiques. Je vous propose, si vous le souhaitez, d'écouter une prédication absolument lumineuse de quelqu'un qui est présent ce soir, qui s'appelle Jean-Marc Ventre, qui nous a fait en qualité de prédicateur laïque, notre pasteur étant absent dimanche dernier, une prédication et le texte, vous pouvez retrouver le texte sur le site de l'Église réformée d'Annecy, qui ne s'appelle plus Église réformée, Église protestante unie, mais le site s'appelle toujours erfannecy.org, mais au lieu de rubrique conférence, rubrique prédication, et vous verrez, ce qui n'enlève rien à la grandeur immense d'Augustin, combien certains de ses écrits ont été absolument tragiques, notamment pour les protestants et pour les juifs. Ça, c'était une incise, pardon Jean-Marc, pour ta... Voilà, mais fallait le dire. C'était aussi une manière de te rendre hommage pour le travail absolument extraordinaire que tu nous as donné. Moi, je voudrais vous dire combien vous m'avez réjoui ce soir, parce que il y avait que de l'actualité, que de l'ici et maintenant ce soir. Et je vais essayer de dire pourquoi. L'objectif assigné à cette conférence a été pleinement atteint. En fait, l'objectif, c'était l'espérance. Pour atteindre l'objectif de l'espérance, il faut avoir, à mon sens, le regard, le cœur et l'âme complètement orientés par l'espérance. Et vous avez su remarquablement le faire. Je vais essayer de dire pourquoi. D'abord, j'ai beaucoup aimé par... votre manière de présenter votre... C'est une présentation extrêmement érudite. Et puis, vous nous avez beaucoup aidé avec le document qui va nous permettre de revenir sur ce que vous nous avez dit. Extrêmement érudite, mais, ou plutôt, et, en même temps, une présentation que j'ai trouvée remarquable par son approche distanciée. C'est-à-dire que ce n'est pas une approche béate. Et ça, j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, je voudrais vous remercier aussi pour la réserve relative à l'inclusion. C'est-à-dire cette invitation qui nous est faite et qu'on ne suit pas toujours assez à mon gré. Moi, j'y suis assez facilement parce que je suis un rebelle. Mais le pouvoir et le devoir de dire non, Il y a 30 ans, il y a une banque qui avait affiché d'immenses affiches, là, les plus grandes affiches, disant qu'elle avait le pouvoir de dire oui. Ce qui était complètement faux d'ailleurs, mais enfin. Ben, nous, on est invités à exercer le pouvoir de dire non lorsque l'inclusion n'est pas acceptable. Lorsque l'inclusion est contraire à l'esprit de fraternité, l'esprit d'humanitude. Je préfère humanitude, à, même si le terme n'existe pas, c'est un néologisme à celui d'humanité. Et puis, j'ai bien aimé cette, même si vous ne l'avez pas dit dans ce sens-là, moi je fais le rapprochement, le concept de brèche, brèche, résurrection, mais le brèche qui nous ouvre, faire une brèche en nous, pour nous ouvrir de façon à laisser résonner l'appel, à répondre à l'appel que Dieu nous adresse, pour nous rendre disponibles, précisément pour accueillir l'espérance. Non pas pour être béat encore, mais en vue de la rayonner et de la réveiller, l'espérance. Et ce que vous nous avez dit, ça m'a rappelé ce que j'ai trouvé dans un livre qui nous a été conseillé par Eliane, un livre absolument lumineux, que je conseille vraiment pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas, « La pensée développée par Magda Hollander Lafon », dans son ouvrage tout entier, pétri d'espérance, ouvrage qui s'appelle « Quatre petits bouts de pain ». Donc j'ai retrouvé, dans ce que vous avez dit, je retrouvais ces fibres tissées d'espérance. Fibres tissées et cette invitation à laisser circuler en nous ce flux d'espérance. Et j'ai bien aimé aussi que vous nous parliez à plusieurs reprises de Martine Niemöller. Je ne sais plus comment le prononcer. Voilà. Ben, si vous pouvez l'écrire au tableau, parce qu'en fait, cette personne-là, tout le monde connaît. Tout le monde connaît ce qu'il a dit. Si vous écoutez les revues de presse, souvent on parle de lui. Mais on ne sait pas que c'est lui qui a dit ça. Il avait un frère d'ailleurs aussi. Hein. Mais c'est lui qui a dit, vous allez tous vous rappeler que vous avez entendu, quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas communiste. Et il continue, quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les socialistes, quand ils sont venus chercher les francs-maçons, je n'ai rien dit, je n'étais pas franc-maçon. Et quand ils sont venus me chercher, personne n'a rien dit. Voilà. Donc vous voyez, tout le monde le connaît. Donc je suis heureux que vous l'ayez cité parce que c'est vraiment quelqu'un de... Et puis la dernière chose, toujours dans le sens de ici maintenant, vous savez, quand j'interviens pas de façon... Je prépare toujours ce que j'ai à dire. J'ai pas cette capacité intellectuelle d'un coup de dire. Donc je prépare, et en préparant donc la séance, la réunion ce soir, j'ai trouvé quelque chose qui m'a invité dans la biographie de Moltmann, quelque chose qui m'a invité à dire combien on doit être responsable ici et maintenant. Vous allez voir pourquoi. C'était évoqué en partie par le professeur Chalamet. En fait, à la fin de la guerre, Moltmann a été interné dans 3 camps successifs. Vous me corrigez si c'est pas ça. Le deuxième de ces camps, c'était l'Écosse. Et il a été... Donc, ça consistait pour les Allemands, les prisonniers allemands, à reconstruire, en fait, les effets de la guerre, disons. Hein. Et il a été profondément impressionné par l'hospitalité des Écossais envers les prisonniers allemands. Et moi, j'ai été très interpellé par cet aspect parce que j'y vois une invitation à faire preuve de ce qu'en Orient, je me tourne vers mon frère et mon ami Samuel, les orientaux savent bien ce que c'est que l'hospitalité, nous on sait un peu moins ce que c'est que l'hospitalité, à faire preuve d'hospitalité envers l'autre, et pour reprendre un peu un terme cher au père Barthélemy, envers celui qui est autre. Pourquoi ? Parce que ce qu'a vécu Moltmann montre bien combien un comportement hospitalier, un comportement d'humanitude peut aider l'autre à s'inscrire ou à se réinscrire dans une dynamique d'espérance. Voilà.
Oui, et puis le mot hospitalité en grec, c'est le très beau mot philoxénia. Au lieu de la xénophobie, la philoxénia.
Le petit livre, effectivement, de Magdala, c'est, qui était une jeune femme juive qui est, hongroise, qui a été prise en 1944, elle avait 17 ans, et elle a fait une année complète de camp de concentration dans des conditions terribles. Mais grâce à, justement, une humanité même de la part d'un Allemand, d'un SS, elle le dit, mais ce qu'elle écrit, je vous invite, le livre n'est pas très gros, ça n'a rien de tragique. Par contre, la fin, quand on nous raconte l'histoire, effectivement très historique, c'est très dur. Elle a vécu quelque chose d'incroyable, mais elle, la façon dont elle dit les choses, c'est absolument magnifique. Donc ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le lire, je vous invite à le faire. Et là, alors, c'est plein d'espérance, vraiment. C'est des merveilles comme cela. Magdala Lander. Magdala, je vous dirai.
Magda.
C'est Magda, d'ailleurs. Magda. Écris-le, Lambert, voilà. D'autres questions ou d'autres réactions? C'est un sujet important que ce sujet que vous nous avez proposé ce soir. Et
je ne sais pas si j'ai raison d'avoir demandé la parole. Premièrement, je suis née à Tübingen, et bien ça n'a pas suffi pour me donner cette grande intelligence. Et pourtant mon père était pasteur aussi. Mais donc je ne peux que poser des questions très simples. Je viens toujours avec mon mari, moi nous venons avec un tel grand plaisir ici. Parce que premièrement, nous avons, et ça nous ne nous trompons pas, nous nous retrouvons avec des gens qui ont un esprit ouvert. Personne ne prétend de posséder la vérité. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est un lien, absolument. Quelque chose qui est ouvert peut être un lien. C'est assez extraordinaire. Mais je voudrais tout de même vous poser deux questions. Une qui est un peu personnelle et très courte après. Et la première, j'entends parler, par exemple, Jürgen. Un de mes frères s'appelle même aussi Jürgen, mais il est aussi philosophe, seulement il est non-croyant. Alors vous voyez ce qu'on a comme... Alors Moltmann, vous disiez tout à l'heure, il se trouve aux États-Unis, entouré de 500 théologiens. Donc tous des hommes d'un niveau intellectuel très fort. Eh bien, je voudrais faire court la première question. Il faut, bien sûr, c'est formidable, je viens ici, même si je ne suis loin de comprendre tout, mais ça ne m'arrête pas de venir parce que j'apporte quelque chose. Mais ce que vous êtes capable, les questions de vous poser, de parler un langage qui ne nous est pas donné, même quand on est à Tübingen, ça a fini tout de même par avoir, à un moment donné, une influence sur ce peuple tout simple qui n'est pas capable de se poser des questions. Alors, c'est assez extraordinaire à quel point, finalement, naturellement, on pourrait le faire très simplifier les choses et en même temps, je sens la nécessité qu'il faut qu'il y ait aussi un monde très au-dessus de nous, je pense, non? Alors, une question, vous avez toute un peu personnelle, vous avez tout au début dit trois mots qui, pour moi, étaient presque un peu durs. Oui, vous faisiez, moi je viens dans l'église Luther, et maintenant en France, je pratique l'église du Calvin sans aucun problème. Mais vous faisiez une remarque que vous vouliez bien montrer, il y a une différence entre l'église calviniste et l'église luthérienne. Est-ce que vraiment, quand on vient ce soir, c'est vraiment nécessaire et pourquoi de sentir qu'il y a une différence entre les deux?
Tout d'abord, je pense que les gens normaux, on peut avoir des questions très très profondes, et parfois plus profondes que les gens soi-disant intellectuels, universitaires ou que voulez-vous. Donc des vraies questions profondes, des questions existentielles, on les trouve partout dans l'humanité. C'est pas l'apanage de quelques spécialistes, etc. Au contraire, les spécialistes parfois sont tellement spécialisés dans leur truc, dans leur petit machin, leur petit potager, reprendre le petit verger, qu'on en oublie les questions fondamentales. Il y a des différences entre les luthériens et les calvinistes, les réformés. Parce qu'il vaut mieux dire réformés, vu qu'il y a Zwingli dans cette histoire, hein, de réformés. Donc il y a des différences, et là encore, c'est dommage de se dire il faut ignorer ces différences pour pouvoir s'entendre. Moi je préfère qu'on puisse connaître ces différences et s'entendre. Pour moi c'est plus intéressant. Et donc voilà, mais je veux l'union avec les... Je ne suis pas confessionnaliste au sens où je pense que les réformés croient mieux, prient mieux, que les luthériens ou les catholiques, etc. C'est pas ça la question. Mais c'est-à-dire qu'il y a quand même des différences. Il y a eu des débats très comme tendus au XVIIe siècle, par exemple, mais déjà au XVIe siècle, sur l'Eucharistie, le sens de la Sainte Cène. Il y a déjà un désaccord en 1529. Avant que Calvin fasse sa réforme à Genève, etc., il y a un colloque à Marbourg, il y a Zwingli, il y a Luther, il y a Bucer, et ils s'entendent pas. Il y a Melanchthon, ils s'entendent pas. Luther quitte ce colloque en disant « Nous avons un esprit différent. » Donc pourquoi? Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui se trame? Etc. Et donc la Concorde du Leuenberg de 1973, qui a été cette manière extraordinaire d'unifier les églises réformées et luthériennes en Europe, ça n'a pas marché au-delà aux États-Unis, parce que vous avez encore des luthériens très très luthériens, ils sont luthériens avant d'être chrétiens, c'est ça le problème. C'est ça le désastre. Et eux, ils n'en veulent pas. Ils veulent... Moi, j'ai rencontré des luthériens pendant mes années aux États-Unis qui n'iraient pas célébrer dans un temple réformé, qui pensent que le pasteur luthérien doit se tourner du côté de l'autel plutôt que du côté de la congrégation. Il y a des aberrations comme ça encore dans le protestantisme anglo-saxon, anglophone. Mais ça ne veut pas dire ignorer les différences qui sont des enrichissements, voilà. Le rapport entre la loi et l'évangile, la manière dont Luther lit l'Ancien Testament, considère les Juifs, ça empire au fil de sa vie, vous savez peut-être, hein. C'est quand même un héritage très très lourd, c'était facile de reprendre ça dans les années 30, alors que les réformés, ben, eux, ils s'appellent Samuel, Élie, Isaac, Gédéon, etc., dans les années au 19e, mais aussi avant et après. Et parce qu'ils aiment l'Ancien Testament, parce qu'ils y voient la même substance que dans le Nouveau Testament, le même contenu. Formulé différemment, cette manière un peu plus voilée, mais c'est le même contenu, selon Calvin. Et ça marque les esprits, ça façonne la manière de voir l'autre, le juif, quand on est chrétien. Voilà, donc l'articulation des deux testaments n'est pas la même en luthéranisme que dans la tradition réformée. Par exemple.
Juste un tout petit mot, je vais parler très fort, donc j'ai pas besoin de micro. Vous voyez, chère Irmela, comment on va m'entendre? Chère Irmela, vous voyez combien vous êtes éminemment précieuse, parce que vous permettez d'avoir des réflexions d'une très grande profondeur.
Oui, moi je vous remercie. Merci Irmela.
Ville Tübingen, très belle ville.
Parce que là, il m'a trahi parce que j'ai fait une blague. Ça sortait un peu du cœur.
Il était en train d'écrire les adresses. Elle sortait du cœur en disant, vous pourriez presque écrire, Urmela, c'est mon prénom, un nom tout à fait très ancien, que je vous embrasse tous. Et c'était une blague. On ne devrait jamais blaguer. Et puis là, il a dit, je vais écrire. Et ensuite, il m'a trahi. Je voulais qu'il enlève, parce qu'on ne se met pas comme ça devant. Non. Je lui ai défendu de parler de moi.
Mais Urmela, nous avons besoin de personnes comme vous et qui disent dès l'entrée, Urmela, qui nous est éminemment précieuse, a dit Norbert, est heureuse d'être avec nous et embrasse chacun, chacune et chacun. C'est formidable, mais on a besoin, la preuve, effectivement, vous posez les bonnes, toujours les bonnes questions. Toujours. C'est merveilleux. Et... Merci. Une dernière bonne question ou question ou réflexion, commentaire.
Tous les auteurs qui ont été cités, je reconnais que je n'en connais aucun, entendu parler, et je n'en ai lu aucun. Alors, monsieur le professeur, merci. Mon ignorance, je la savais, mais pas du tout.
Là aussi, notre cher ami. Mais oui, mais notre ignorance à tous. Moi non plus, je ne connaissais pas tous ces auteurs. Et je crois que beaucoup d'entre nous ne nous connaissions pas. Et justement, nous faisons venir spécialement des personnes éminemment calées, voilà, en tout cas, qui peuvent nous enseigner, bien sûr. C'est là pour ça.
On pose toujours des questions qui suscitent des réponses.
Aussi, comme Urmela.
Oui. Il n'y a pas besoin de connaître ces auteurs.
Non.
Par rapport à toute cette expérience eschatologique de justice, d'humanisation, qu'est-ce que l'on peut faire? Est-ce que c'est une question d'un christianisme politique et social, mais face à tous ces excès de sécularisation de la société européenne, on voit bien que la tradition judéo-chrétienne est très malmenée en Europe. Alors quelle serait votre réponse dans notre vision eschatologique historique de cet achèvement et quand on voit cette déchristianisation accélérée de l'Occident. Une possibilité, le repli identitaire. Ce dont je ne veux pas, hein. On est d'accord là-dessus. On ne veut pas ce repli identitaire, mais en même temps connaître nos racines, les apprécier, les critiquer quand il le faut. Donc une perspective un peu distanciée, mais en même temps une réappropriation de nos racines. Donc un travail d'herméneutique, d'interprétation de nos racines. C'est ce que je disais quand j'essayais de définir la tâche de la théologie systématique, ce gros mot, qu'est-ce que ça veut dire? C'est essayer de penser la pertinence de cette foi judéo-chrétienne, de cette tradition, aujourd'hui. Qu'est-ce que ça peut dire? Moi j'ai passé 10 ans aux États-Unis dans une université jésuite, je me sentais tout à fait à la maison dans cette université jésuite à New York. Eh bien, ce que je retiens de mes aînés là-bas, c'est qu'on n'a pas à avoir peur de parler de Dieu. Voilà. On a parfois peur d'utiliser ce mot. Non, non. Je pense que les gens, en fait, attendent des chrétiens et des théologiens qu'ils utilisent ce mot. Mais les chrétiens s'auto-censurent, les théologiens s'auto-censurent. Donc pourquoi ne pas dire ce mot? Comment on peut faire la théologie si on n'utilise pas ce mot? Est-ce qu'il faut parler plutôt de l'inconditionné? Paul Tillich veut tout retravailler en utilisant d'autres mots. Le Dieu, non, c'est l'inconditionné. Das Unbedingte, or the unconditioned. La foi, non, il ne faut pas parler de la foi. Les problèmes ont raison là-dessus peut-être. Non, c'est ce qui nous concerne ultimement, la foi. Ce qui nous concerne existentiellement de manière ultime. Pour éviter de faire de la foi une croyance. C'est pas une croyance, la foi. C'est pas un contenu. C'est une relation de confiance à Dieu. Donc, vous voyez,
Voilà, donc il y a un énorme travail de réinterprétation et de réappropriation ouverte en dialogue avec la culture, la philosophie, etc., et qui n'a pas peur de se replonger dans nos racines et de découvrir l'ouverture, le respect de l'autre, de l'altérité dans ses racines elles-mêmes. Voilà. Contre les replis identitaires qui sont déterminés par la peur, voilà, par l'angoisse. Donc c'est un peu ça, mais oui, en même temps, il y a une lame de fond, et c'est pas un ou tel religien, quelques petits chrétiens ici à droite qui vont aller là contre. Ratzinger suggère qu'on se replie, hein, un peu une communauté ghetto de chrétiens, de purs. C'est pas ma vision non plus. Mais en même temps, il faut que nos paroisses deviennent des lieux vivants, avec des gens qui savent pourquoi ils sont là, qui n'y vont pas simplement pour adorer la Sainte Famille une fois par an, comme la famille Motman. Mais il faut... Bon... J'ai pas envie de critiquer trop non plus. Mais donc une église de multitude, c'est peut-être pas ça l'avenir d'une église chrétienne. Peut-être que là, il y a une proximité avec la vision de Ratzinger, de Benoît XVI. Mais une église ouverte en même temps sur le monde, qui va à la rencontre de l'autre. C'est pour ça que j'écris aussi cet ouvrage sur Henri Nic, un homme qui va à Lille, qui va rencontrer les ouvriers. Pour qui le christianisme, c'est le catholicisme, des patrons. Pas le catholicisme. Le christianisme n'est pas avec les ouvriers, il est face aux ouvriers, c'est le catholicisme des patrons. Heureusement, il y a aussi Achille Liénard, il y a Cardinal Liénard, il y a des figures comme ça, qui ont une autre perspective sur le catholicisme. Il y a aussi un catholicisme social, comme il y a un christianisme social protestant. Mais pour tous ces ouvriers du Nord, du bassin houillé, le christianisme, c'est le catholicisme, et c'est les patrons. Et donc, ils sont ahuris de voir tout d'un coup des protestants anglais qui débarquent, qui sont à la fois socialistes et chrétiens. Et ils font un grand défilé à la Pentecôte 1910 dans les rues de Lille, et les ouvriers n'en croient pas leurs yeux, de voir que c'est possible d'être à la fois chrétien et socialiste, disons du côté des travailleurs. Donc, voilà, c'est un peu une réponse alambiquée qui part dans tous les sens. Mais j'ai pas de solution, hein, c'est une lame de fond. Et ça vient pas des années 60, de mai 68, hein, ça vient du 17... Relisez de Jean-Jacques Rousseau, c'est magnifique, c'est une langue extraordinaire, la confession de foi, la profession de foi du vicaire savoyard. Et vous verrez pourquoi on a un problème. Parce qu'en fait, Rousseau pose des questions d'une extrême profondeur auxquelles on n'a pas de réponse. Toute faite. Il met en question la notion même de révélation et toutes les médiations historiques. Rousseau ne veut pas de toutes ces médiations historiques de nuées de témoins qui témoignent d'un événement pascal, etc., il y a 2000 ans. Qu'est-ce que c'est que cette religion avec un événement il y a 2000 ans? Ça n'a plus rien à dire aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je dois croire tous ces gens qui me disent ça au fil des générations? Non, une religion de la conscience, de l'intériorité, de l'immédiateté avec Dieu, etc. Ça, c'est la religion de Rousseau. Et c'est très très intéressant, donc, cette profession de foi du vicaire savoyard, c'est parce qu'on n'a pas de bonne réponse à ces questions de Rousseau qu'on est dans la situation où on est aujourd'hui.
Non, mais je pense qu'il ne faut pas être si pessimiste. Moi, je suis simplement un professeur de philosophie qui vient de l'école laïque. Je pense que déjà dans tout l'héritage artistique, il suffit donc de commencer à fréquenter les musées, d'introduire les élèves. Par exemple, pour faire comprendre un tableau de Poussin aux élèves, il m'est arrivé d'avoir à expliquer ce que c'était que Adam et Ève, le paradis terrestre. J'avais des élèves, les seuls élèves dans cette classe de terminale L qui connaissaient vraiment, c'était des jeunes maghrébines, hein, qui connaissaient l'histoire du paradis terrestre. Mais on arrive toujours, on revient toujours à travers, ne serait-ce qu'à travers l'esthétique, à travers la musique, à travers la peinture, on arrive à la religion, à travers toute la philosophie telle, à travers les textes de Rousseau, à travers les textes de Descartes, je reviens à Augustin, bon, je ne sais pas, peut-être qu'il a des textes terribles sur la violence, mais il a aussi des textes sur l'intériorité et justement sur l'espérance eschatologique qui sont extrêmement importants pour vous amener justement à une réflexion sur le christianisme. Donc je pense qu'il ne faut pas être aussi pessimiste, parce que...
Oui.
je pense que c'est, le contexte est complètement différent de, des années 50. En 50 ans, le système éducatif a complètement changé. Et les enfants ne vont plus, n'ont presque plus d'éducation religieuse. Mais malgré tout, il y a toujours un questionnement. Et il ne faut pas être aussi pessimiste, moi je pense.
Ouais. Je suis d'accord avec vous d'ailleurs, le monde, c'est pas l'Europe de l'Ouest.
Exactement.
Ouais, c'est vrai.
Et puis, il y a toujours la foi en l'esprit qui vivifie, qui donne la vie, qui souffle où il veut, au-delà de l'Église. Ce n'est pas l'esprit des chrétiens, l'esprit de l'Église chrétienne, c'est l'Église et l'esprit de Dieu, c'est le rouar de Dieu, le pneuma de Dieu, c'est son souffle, son haleine. Et donc voilà, c'est la foi, elle repose dans ce souffle qui vivifie, qui rend vivant, qui fait susciter des choses qui n'existaient pas, qui fait être ce qui n'est pas. Donc, je suis d'accord avec vous. Et il y a encore des lieux magnifiques de christianisme en Europe de l'Ouest. Moi, j'étais très marqué par Thésée, je ne serais pas là ce soir sans Thésée, je suis passé par Thésée. Et puis, il y a même des films comme Des dieux et des hommes qui témoignent vraiment de quelque chose de l'Évangile et du christianisme. Donc, il y a des témoins, des martyrs, des martyrs au sens de témoins encore aujourd'hui. Donc, oui. Merci de nous rappeler cela. Il y a de l'espoir. Il ne faut pas être aussi pessimiste. Et notre monde est plus large que notre vieille Europe aussi.
Pour rebondir sur ce qu'a dit notre ami Jean-Albert, moi je voudrais dire combien, à mon avis, il est d'une part difficile de parler de Dieu, maintenant dans cette société de plus en plus effectivement déchristianisée, il ne faut pas se voiler la face, mais combien on peut contourner cette problématique en parlant, entre guillemets, mais en parlant avec des actes. C'est-à-dire en parlant non pas avec des mots, mais en parlant par manière d'être, de vivre, de se comporter, là où on habite, là où on agit dans le tissu associatif, pour ceux qui sont engagés dans le tissu associatif, dans la cité, etc. Et non pas commencer par parler de Dieu, mais vivre de façon telle que les interlocuteurs sont interpellés et disent « Mais pourquoi ?» Et là, il y a une brèche, on a ouvert une brèche, pourquoi? Et là, on est à même de dire, je ne fais pas de prosélytisme, mais moi, j'agis de cette manière-là parce que je suis enraciné en Dieu, parce que j'ai reçu et j'ai envie de redonner. Voilà. Non pas la parole d'abord, mais les actes qui engagent, qui interpellent, et qui amène la demande de parole de l'autre.
C'est pas pour rien qu'un lieu comme Thésée interpelle, parce qu'il y a une adéquation entre la vie des frères de la communauté et ce qu'ils disent. Et d'ailleurs, ils disent pas énormément de choses. C'est des hommes de prière, etc. Et ça interpelle les gens. C'est vrai, il vaut mieux peut-être une société où les gens sont pas blasés par des textes bibliques qu'ils ont entendus des milliers de fois, qui... Voilà. Il vaut peut-être mieux une société où il y a vraiment un effet de surprise quand l'évangile est annoncé, ou quand le message aussi du judaïsme est annoncé. Un vrai effet de surprise.
Le signe le plus important de l'alphabet pour moi, c'est le point d'interrogation. Poser des actes qui amènent point d'interrogation. Mm-hmm. Et les deux points d'interrogation sont deux oreilles. Dessinez deux points d'interrogation, vous avez deux oreilles.
Nous allons presque clore, je pense, hein, vu l'heure aussi, c'était à moins qu'il y ait encore, bien sûr, hein, des questions. Eh ben voilà, Jean-Pierre.
Je m'excuse, c'est un lien de tard, mais je voulais quand même vous demander quel est ce que vous pensez, votre attitude comme théologien par rapport à Jacques Ellul. C'est tout. Je m'excuse, ça vient contre-temps, mais pourquoi pas.
J'ai donné ma leçon inaugurale à l'Université de Genève en septembre dernier. Vous pouvez d'ailleurs l'écouter sur le site de la faculté de théologie. Le titre, c'est « La subversion de l'Évangile ». Donc vous voyez tout de suite la dimension, l'héritage élulien d'une certaine manière, subversion de l'évangile, ou comment nous subvertissons l'évangile en faisant un message inoffensif, en le détournant de sa dimension révolutionnaire radicale, et puis comment l'évangile nous subvertit dans notre entendement, avec la métanoïa, la conversion de l'intelligence que l'évangile appelle. Donc voilà, pour moi, Ellul est probablement le plus grand penseur protestant français du XXe siècle.
Avant de terminer, et peut-être pas encore, mais je voulais rebondir sur l'espoir. Et Catherine Chalier vient de sortir un livre qui s'appelle « Présence de l'espoir ». Et c'était juste quelques phrases, là encore, tirées de ce livre, ou en tout cas de sa présentation. Comment comprendre que même dans les situations terribles, l'espoir déserte rarement tout à fait le cœur humain. Espérer, c'est avancer vers ce que l'on ne voit pas et ce que l'on ne prévoit pas, mais qui déjà nous affecte. Dans le cadre biblique, l'espoir se fonde sur une promesse qui ne concerne pas uniquement l'avenir humain et le sens de l'histoire. Il ouvre une perspective eschatologique relative à un monde qu'aucun œil n'a vu. La question « As-tu espéré ?» nous sera d'ailleurs posée après notre mort selon le Talmud. Espérer apparaît alors comme une des vertus les plus exigeantes. Voilà quelque chose où l'on peut œuvrer. Alors, il y a beaucoup plus, si vous imaginez, un livre entier là-dessus. Je ne l'ai pas encore acheté, mais ça doit être une merveille. Elle passait sur l'émission de Victor Malka, mais je crois que c'est tard pour l'entendre.
Pendant ces 2000 dernières années, le judaïsme n'a fait qu'espérer. Au point que son chant depuis 2000 ans est aujourd'hui devenu l'hymne du pays retrouvé, s'appelle Hatikva. Ça veut dire l'espérance. Merci.
Merci, merci. Samuel, je voulais le dire et merci de l'avoir dit à ma place.
Donc si vous voulez écouter cette émission dont Eliane vous a parlé, avec Victor Malka, donc l'émission qui s'appelle Maison d'études, qui est diffusée tous les dimanches matins sur France Culture à 9h10 à 9h40, vous pouvez la retrouver soit en passant par le site de l'Amitié judéo-chrétienne de France, où il y a un lien, il y a une petite fenêtre recherchée, vous tapez Catherine Chalier, et vous allez arriver à un lien, il suffit de cliquer sur le lien, pour aboutir à l'émission qui était diffusée le 3 février sur France Culture, ou alors aller sur le site de franceculture.fr, onglet émission, vous tapez maison d'études, vous allez arriver sur le site. Et maintenant, les émissions sur France Culture sont réécoutables ou écoutables, je ne sais pas si le terme existe là, peuvent être écoutées, pardon, pendant peut-être écoutées pendant 1000 jours, et peuvent être téléchargés ou podcastés pendant un an. Donc vous avez tout le temps de le faire, et Victor Malka a invité Catherine Chalier, et Catherine Chalier a été, comme d'habitude, lumineuse.
Est-ce que d'autres questions? Bien, je crois que on peut remercier beaucoup, beaucoup le professeur Chalamet. Merci, merci. Infiniment, infiniment. C'était une leçon magistrale sur cet homme. Et, oh, peut-être pas pour vous, mais pour nous. Vous, ça vous semble facile, peut-être, et simple. Nous, c'était moins facile et moins simple. Mais je crois qu'on aura encore ce soir appris beaucoup, beaucoup de choses, et on vous en remercie énormément. Alors, puisque je crois que vous voulez nous quitter maintenant. Non, non, hein, vous aviez dit, vous êtes extrêmement gentil. J'ai